I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
C'est la Fashion Week?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those? Dior clothes.
It's fashion art. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know?
That's all.
Hello, Lina.
Hello.
Bonjour.
Bonjour, merci
trop,
de m'avoir invité.
Trop content de t'avoir.
Ouais.
On va pas dire les backstage, mais c'est vrai que ça fait presque 2 ans qu'on est dessus.
J'ai été kidnappée.
Et jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que
on
j'entende
croyait pas.
Les tes pas dans l'escalier, je me suis dit, c'est elle, c'est pas elle. Non, en tout cas, on sait que tu as un agenda super compliqué, donc merci d'avoir squeeze un petit moment pour nous.
Non, on est très content.
On est super content. Alors, on va faire le podcast habituel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu as grandi déjà, d'où tu viens? Voilà, déjà on va commencer par ça.
On parle okay. du berceau.
Donc alors, je vais me présenter. Donc je m'appelle Lina Valeria Anda. Je suis née à Yaoundé au Cameroun. Voilà, je suis camerounaise en fait.
Ok.
J'habite juste à Paris, on va dire ça comme ça.
Ok.
Mais je suis très fière de mes origines. Je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille et musicale et très axée sur la culture. J'ai un père qui est diplomate, qui a toujours mis en avant les études, donc c'était très important chez nous. Et donc voilà, quand je suis arrivée à Paris, très vite, j'ai toujours voulu, je pense, en fait mon père a une formation de journaliste, et j'ai toujours voulu être journaliste. Ça, c'était mon grand rêve, c'était le rêve de ma vie quand j'étais petite. Donc, j'ai commencé dans ce milieu, vu qu'il s'agit d'un podcast un peu sur le milieu de la mode et de la culture et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai toujours voulu... j'ai commencé dans ce milieu en faisant des études... Enfin, j'ai fait des études de journalisme.
Bon, avec ce que tu dis, j'imagine que le lycée, tout ça...
C'était
team, team
non,
première de la
franchement,
classe.
J'étais pas team première de la classe du tout. En fait, j'étais très bonne. J'ai eu 18 en philo au maths, en philo au bac.
Okay.
18 en philo au bac. Voilà.
Donc, en L ou un truc comme ça
j'ai fait un bac L et j'étais très. J'étais nulle en maths, mais comme je savais ce que j'avais envie de faire, en fait, j'étais très. J'avais un.
Ça aide.
Hein.
Voilà.
Focus.
Voilà, j'étais focus sur ce que je voulais faire après. Je savais que j'avais envie d'aller à la fac. Je savais que. Je savais que je voulais devenir journaliste, en fait, donc je me suis donné les moyens. Et en fait, au lycée, en sortant du lycée, j'ai eu la chance de rencontrer des gens un peu dans ce milieu. J'avais fait des stages, j'avais fait un stage à l'époque chez, je ne sais même plus si ça existe, Version Fémina. Vraiment,
ah oui,
genre le
Fémina.
Truc... voilà, genre, voilà comment j'ai commencé. Vraiment qu'on okay. voit qu'on peut commencer vraiment tout en bas. Et...
Ah bah, je t'assure, ici, il y a des gens qui ont commencé au McDo des 4 temps.
Ah.
Hein, donc...
Donc voilà, donc je voulais faire de la radio à la base, mais après je me suis dit, tiens, la presse écrite, donc j'ai fait un stage chez Version Fémina, ça ne me ressemblait pas du tout. Personne n'avait ma couleur, c'était vraiment
j'imagine.
Le truc où j'arrivais, on m'envoyait faire les photocopies, ou alors on m'envoyait les filles qui étaient beaucoup plus âgées que moi, comme je parlais anglais, elles me faisaient traduire tous leurs trucs en anglais.
Ouais, vraiment les petites mains.
Voilà, et en fait, je ne sais plus comment, par un concours de circonstances, j'ai rencontré... des mecs à Paris qui lançaient le magazine américain The Source. The Source.
Ouais. Énorme qui... magazine de musique, hip-hop, culture.
Et en fait, moi, j'étais un peu la petite. Ils m'ont demandé, est-ce que ça te dirait de faire des interviews d'artistes et compagnie? Donc, je sortais de l'école, j'allais faire des interviews pour eux.
Donc c'était The Source France, hein, c'est ça?
Ouais, The Source France. Et donc, du coup, j'ai commencé à rencontrer des gens. Mais à l'époque, moi, j'ai jamais été, impressionnée par la célébrité. C'est jamais un truc qui m'a fascinée. Donc moi, j'y allais vraiment, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de connaître leur parcours, de connaître leur histoire. Donc j'allais, il se trouve que c'était des gens qui étaient assez connus, donc j'avais toujours des copains qui me disaient « Mais attends, tu te rends pas compte, là c'est Outkast. »
Mais toi, t'écoutais cette musique déjà, c'était
moi,
ta culture
cette musique. Okay. En fait, j'ai eu une culture très... alors musicale par mes parents, mon père écoute beaucoup de musique classique, beaucoup de musique classique, en fait, et beaucoup de jazz, beaucoup de rhythm and blues, mais vraiment des sons beaucoup plus à l'ancienne.
Mmh.
J'ai eu la chance, en fait, de... En grandissant, mon père était très proche, c'était comme mon oncle, de Manu Dibango.
Oh.
Donc, en fait, toute mon enfance, ça a été... on a été bercés par sa musique à lui, On écoutait toujours de la musique à la maison. Et je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote. Ça va me vieillir un petit peu. Je ne vous dirai pas mon âge, mais ça va un peu vous situer. On avait ce truc où donc, c'était Tonton Manu qui avait eu un petit souci avec un artiste international.
Michael Jackson.
Voilà, qui avait volé une de ses chansons. Enfin, qui avait utilisé... qui avait samplé voilà, une de ses chansons sans sa permission. Donc alors, on n'avait pas le droit d'écouter Michael Jackson chez moi.
Wow, non,
non.
Pendant un an,
à la punition.
Il était en plein procès et on n'avait pas le droit d'écouter Michael Jackson.
Il a gagné au final, non?
Il a gagné au final. Mais c'était... Et en fait, pour s'excuser, à un moment donné, Michael est venu en tournée à Paris. Il était au Parc des Princes à l'époque. Et en fait, mes grandes sœurs, mon grand frère, tout le monde était allé le voir en concert. Voilà, grâce à Manu, ils avaient eu des tickets, mais incroyables.
Ouais,
moi, j'étais trop petite.
Tu pouvais ressentir les gouttes de sueur de Michael Jackson.
Donc, moi, j'étais trop petite, donc j'étais allée à la Foire du Trône à la place. Donc, j'avais bien la
pareil.
Mais oui, donc j'avais des grands frères et j'ai des grands frères et des grandes sœurs. Donc, du coup, eux, ils étaient plus musique américaine, culture américaine. Mes parents, c'était plus des trucs beaucoup plus classiques. Et moi, quand j'étais ado, j'étais plus en fait rap français, finalement. Ah ouais. J'étais genre, j'écoutais ATK.
Oh, ah oui, tu sors des vraies blagues, là.
Ah oui, ouais, j'étais vraiment genre rap français.
Ok.
À un moment donné, je suis même devenue copine avec Mélanie Diams.
Bien oh sûr. Là là.
Parce que je trouvais qu'elle avait une plume extraordinaire. Moi, j'adorais écrire. Et en fait, je me reconnaissais plus là-dedans. Autant on avait eu la culture américaine, on allait pouvoir écouter... Je crois que je suis arrivée au rap américain très tard. Donc du coup... Quand ouais. Quand j'ai commencé à faire ces petits jobs, j'avais pas ce truc où j'étais genre. Mm. C'était pas trop mon truc, quoi. Donc, j'ai rencontré Outkast. Je me rappelle, à l'époque, c'était au Crayon. Donc, bien avant les rénovations, je saurais pas vous dire l'année. J'ai rencontré Pharrell à l'époque de son groupe. J'ai rencontré Lauryn Hill. Je rencontrais à chaque fois des artistes américains quand ils arrivaient à Paris. Je faisais des interviews. J'avais une copine qui prenait les photos à côté. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué un peu dans ce domaine-là. J'ai rencontré Angelo de Live Nation,
ah ouais.
qui a commencé Angelo, à me faire un peu aussi
boss.
Bosser. Voilà.
Patron.
Voilà. Qui à un moment donné, il avait aussi un espèce de petit magazine, et puis j'ai commencé à faire des trucs pour lui. Et en fait, j'ai continué un petit peu dans ce milieu jusqu'à ce que je rencontre le père de mon fils et que j'aille m'installer à Berlin. Donc j'ai quitté Paris. J'ai vécu pendant 4 ans à Berlin.
Oh, ça a dû être un changement de ouf, ça.
Ouais, c'était un petit peu un changement radical. Mais en fait, je suis quelqu'un d'assez solitaire, finalement, en fait. Je crois que ce qui me dérange un peu à Paris, et surtout dans le milieu culturel, c'est ce côté où j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de faire partie d'une clique.
Ah ouais.
Et moi, je déteste, en fait, les clubs. J'ai toujours détesté ça. Je trouve que on peut pas être, voilà, team rive gauche, team rive droite, team banlieue. Je pense qu'il faut se mélanger, on apprend tous les uns des autres. Donc, c'est vrai que Paris, ça me donne toujours ce sentiment d'être un peu mise dans une case, surtout quand on est une femme noire et qu'on grandit à Paris. On a toujours, beaucoup moins maintenant, mais moi, le monde dans lequel j'ai grandi, en tout cas, ni je me reconnaissais dans le travail dans lequel je faisais, il y avait personne qui me ressemblait, et on me donnait moins la parole, tout simplement. Donc, dans un milieu de mecs, ça passait, le milieu du rap, c'était toujours cool. Mais dès que j'ai voulu un peu bifurquer et aller vers la mode, c'était toujours très... Il fallait avoir cette image de la parisienne. En plus d'être française, il fallait être parisienne, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'identifie moins en tant que française, parce que je pense que j'ai souffert de ce truc-là, en fait, de ne pas me reconnaître. Pour moi, la française, c'est pas la petite fille avec son petit jean Levi's, sa marinière, ça m'a jamais parlé ça.
Mais ça change que depuis très très récemment, hein, ce changement d'image, tu vois.
Ah oui, totalement.
Il y a encore 4-5 ans, c'était la parisienne Jeanne Damas et...
Jeanne Birkin.
Ouais, c'est ça.
C'est ça,
ouais.
Dans
même si on n'a rien contre Jeanne Damas, mais en fait, il y a des parisiennes, finalement.
Mais c'est ça, c'est ce qu'on reproche au final, c'est de se dire, ok, en fait, quand tu vas dans la rue à Paris, il n'y a pas que des Jeanne Damas.
Je me rappelle en plus
pas du tout. Mais maintenant, entre les Kim Kardashian et compagnie, on a même physiquement, même la parisienne, elle a changé. Mais je me rappelle, une fois, j'ai eu une discussion avec le CEO d'une grande boîte française, d'une grande boîte de mode, justement. Et je lui disais, mais quand on regarde votre marque, en fait, si on va dans vos locaux, moi, à part les gens qui travaillent à la sécurité, moi, je connais personne, en fait, qui a ma couleur.
Même au retail, donc ne parlons même pas des bureaux. Là, tu parles que du retail.
Non, d'aller Je parlais pas du retail en fait, je parlais même du siège où il y avait.
Ah ouais.
Ou oui, du oui. siège par exemple. Okay. Mais même en retail, bon, il y a des gens un peu. Quoique, pas sûr. Voilà.
Ça a mis du temps.
Surtout
hein.
pas pour cette marque. Mais en tout cas, je disais, mais vous embauchez pas de personnes de couleur ou... Il me disait, mais en fait, les gens postulent pas. Comment ah ça, bon. Les gens postulent pas? Et
c'est peut-être aussi ce que tu véhicules. Tu vois, moi, pendant longtemps, il y a des marques chez qui je suis pas allé parce que je me disais, ok. C'est pas pour moi, genre l'image de marque que tu véhicules ne me correspond pas, donc je vais pas me sentir à l'aise de venir dans ta boutique, tu vois.
Ouais.
Mmh. En fait, je pense qu'il y a des marques qui recrutent pas tout simplement. Qui
oui,
recrutent
non
pas
mais bien
le...
sûr.
Et par
non
choix,
mais l'excuse
en
de on n'en voit pas, ouais. si t'en vois pas, c'est que aussi toi, comment tu communiques et ce que tu dégages comme valeur, ouais. c'est que t'es pas super open à ça.
Mais ça
quoi.
C'est une, je pense que c'est une fausse excuse parce qu'en fait, je pense que en France aujourd'hui, on est encore dans une situation où on n'arrive pas à avoir des personnes de des minorités, dans... enfin, il y a très peu de minorités qui ont des postes à responsabilité ou vraiment des, enfin, que ce soit un creative director. Bon, on a vu un changement avec Virgil, avec Pharrell, même si pour moi, Pharrell, il compte pour du beurre, comme on dit, parce que en réalité, bon, il était artiste et s'il n'avait pas eu son buzz en tant que musicien, je ne pense pas du tout qu'il aurait fini chez Vuitton. Mais... Et puis ils ont aussi surfé sur la vague de Virgil où ça bien fonctionnait sûr. Très bien. Mais les marques aujourd'hui, en tout cas, moi je me suis jamais reconnue dans tout ce qui est mode en termes d'image, en termes de. La représentation, elle est au niveau zéro. Hein, même si parfois il y a des gens un peu témoins comme ça qu'on va placer dans les marques un peu à gauche, à droite, c'est. Moi je me reconnais pas dans ce modèle-là. C'est très hypocrite parce qu'en fait on consomme. Enfin, moi, en étant africaine, je sais que les Africains, c'est la sape.
Ah, mais bien sûr.
Ils ont un vrai pouvoir d'achat.
Bien
mais,
sûr.
Et même des marques pour lesquelles je travaille, parce que bon, voilà, on parle de mon parcours d'avant, mais en gros, aujourd'hui, je conseille en gros des marques dans le luxe sur et leur positionnement et les célébrités. Donc, je fais plein de choses en même temps. Je ne saurais pas vraiment définir quel est mon métier. Et je trouve que c'est bien comme ça, en fait, d'être un couteau suisse, de pouvoir faire plein de choses, autant le casting d'une campagne qu'une collaboration avec un grand artiste, surtout dans le domaine de la musique, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte que et la musique et l'entertainment, il y avait un vrai public et que ces gens-là nous parlaient plus que peut-être une actrice hollywoodienne, finalement, parlait plus aux clients, voilà, aux consommateurs.
Mais ça, on va y venir. Attends, parce que là, on était à Berlin. on a commencé à divaguer, mais repartons à Berlin.
Donc alors, je m'installe à Berlin, j'ai un bébé, tout se passe très bien.
Beau gosse de chez beau gosse. Moi, je l'ai vu grandir au fil des années.
Mais maintenant, il fait 1m85, donc ouais. Il est vraiment, c'est plus du tout un bébé. Et en fait, là... Je crée mon magazine. Donc, j'ai eu un magazine de mode que je compte relancer. Ça, j'espère que ce podcast va me pousser à le faire.
T'enregistrer.
Voilà. qui s'appelle L'Herve et qui était un magazine de mode et d'art. Donc, un biannuel que j'ai lancé comme ça de mon canapé à Berlin avec zéro structure. J'avais juste envie, en fait, de faire quelque chose qui me ressemblait, de retrouver autant... des mannequins de couleurs, mais peu importe, hein, ça pouvait être des Asiatiques, ça pouvait être... J'avais vraiment ce besoin, en fait, de produire quelque chose et de laisser une trace par rapport à tout ce que j'avais fait sur quelque chose qui me ressemblait. Avant, quand j'étais plus jeune, je lisais Jalouse, Le Vogue, j'avais même travaillé pour Vogue.fr à un moment donné, et même les sujets que je pouvais traiter, c'était toujours la hit girl du moment. Et la hit girl du moment, bon, elle n'était jamais noire, quoi. Malheureusement, voilà.
Pas de chance.
Voilà, pas de chance. Donc, du coup, je me suis dit, attends, moi, en fait, je vais vous trouver des hit girls, en fait. Et il y aura des hit girls de toutes les couleurs, de toutes les morphologies. Et ce ne sera pas juste le cliché. Parce que pour moi, en fait, une hit girl, ça peut être une fille qui a zéro sur son compte, mais qui a un style de dingue qu'arrive à faire avec...
Imagine.
Voilà, tellement avec peu en réalité. Donc j'ai lancé ce magazine, j'ai eu la chance d'être entourée de gens formidables, Moreno, Galata, qui était mon fashion director. On a fait des covers avec Martin Parr, le photographe. On a fait Naomi Campbell en cover, qui a accepté de faire une cover pour un magazine indépendant. C'était juste incroyable.
Après, le truc était... Moi, je me rappelle, je crois, c'est quoi, 2012-2013, là, on parle.
Ouais,
Ouais, je me rappelle que c'était hyper quali quand c'est sorti. Je me suis dit, ouais, c'est quoi cet OVNI? Et c'était le premier magazine où tu avais des noirs dedans. Ouais, vraiment. Et on parle vraiment. De 2012.
Mais moi, je contactais les agents. Je ne sais pas si, ça peut si un truc comme ça peut t'arriver aujourd'hui, mais une anecdote, c'est que c'était très artisanal. C'est-à-dire que moi-même, je demandais des packages. Et je disais, bon, j'ai cette fille, je l'ai vue, elle est juste dingue. Et c'était avant les Hanok, les...
Ah bah bien sûr,
voilà,
10 ans
c'était 10 ans avant. Donc en fait, et je demandais des packages, je disais, bah, je veux particulièrement des filles de couleur, peu importe, mais que des filles de couleur. Mmh. Et en fait, l'agence m'envoyait que des blondes aux yeux bleus.
Mmh. Oh, wow.
Et en insistant, en disant, bah non, c'est elles qui sont dispo, on veut elles en cover. Et je dis, mais en fait, c'est pas possible. Donc après, je me suis un peu plus tournée vers les célébrités, justement. Je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose à dire avec l'entertainment. Donc j'ai fait Ciara en cover, j'ai fait Solange, la sœur de Beyoncé. Que j'ai, du coup, j'ai travaillé avec Solange et je me suis un petit peu liée d'amitié avec elle, ce qui m'a apporté d'autres opportunités après. Et via le magazine, en fait, via ce système un peu de mettre en avant des talents américains, les magazines ne le faisaient pas du tout en France à l'époque.
Bah, c'était sale, hein, faut le dire. Ouais. Les gens, ils ne voulaient pas se mélanger avec les artistes urbains, ou, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui urbains.
Exact, on était...
Mais il n'y avait aucun autre magazine qui le faisait.
Ouais. C'était bien avant, c'était les tout débuts d'Instagram.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas encore ces trucs de le post-sponsorisé, tel artiste, surtout pas des artistes urbains. Il ne fallait pas les mettre en avant. En fait, ces gens-là, les mélanger à la mode, c'était un peu régressé pour les marques à l'époque. Donc, même quand on faisait des requests. Enfin, les marques, je pense, qui nous ont le plus soutenus, c'était toujours Prada, parce qu'ils étaient toujours ils étaient toujours avant-gardistes, même à l'époque. Céline, du temps de Phoebe. Givenchy, avec Ricardo.
Avec Ricardo,
parce que lui,
ouais,
il était quand même très... voilà. Mais sinon, les autres marques, c'était toujours compliqué. C'était toujours... elle voilà. Et donc, via ce magazine-là, j'ai commencé à recevoir beaucoup de demandes d'artistes américains qui avaient envie d'être connectés avec des marques françaises, qui avaient vu une cover du magazine et qui, peut-être leur maison de disques ne les laissait pas faire une cover, ils disaient, bah, nous, on veut venir à Paris, on veut rencontrer des marques, on achète beaucoup, voilà. Donc, un jour, complètement par hasard, je ne saurais même pas vous dire comment, je reçois un mail de Virgil Abloh, qui m'envoie un email et qui me dit, qui suivait le magazine sur Instagram, donc à l'époque, et qui me dit, bah, j'ai entendu dire que tu étais très connectée à Paris, parce que j'avais commencé à me faire un petit peu mon réseau dans la mode. Et il me dit, bah, je travaille avec cet artiste qui s'appelle Kanye West, et qui aimerait une veste noire de Chanel. Et en fait, à l'époque, Karl Lagerfeld ne faisait aucune pièce pour homme. Mais il insiste, il dit, moi j'ai vu cette pièce, donc la veste noire, c'est la veste classique de Chanel.
C'était après l'expo, la petite veste noire?
Non, c'était avant.
Avant, ok.
Avant, je t'expliquerai après un petit peu comment, comment cette histoire a commencé finalement. Et donc il dit, bah, moi il aimerait cette veste, il est prêt à la payer, donc on m'a dit que toi tu rendais les choses possibles. Donc, make it happen.
Déjà à cette époque-là.
Voilà, déjà à cette époque-là. Donc, moi, j'étais genre dans un stress incroyable. Sachant que moi, j'ai toujours eu cette mentalité de... Quand je raconte tout ça, en fait, on a l'impression que c'est d'un claquement de doigts. Il y a beaucoup de stress derrière. Mais je me suis toujours dit qu'en fait, rien n'était impossible dans la vie. Toujours. C'est-à-dire que les histoires, elles sont toujours belles quand on les raconte. Mais forcément, il y a des moments où on galère un petit peu. On se dit, bah, comment on va faire? Comment on va faire à la fin du mois? C'est pas papa maman qui paye ni les factures ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ça n'a jamais été papa maman qui en payait quoi que ce soit. Moi, je me suis vraiment faite toute seule après au hasard des rencontres. J'ai un copain qui m'a aidée, un autre copain. Voilà.
Ah, c'est le réseau.
Voilà, le réseau. Et en fait, il me dit, voilà, make it happen. Et donc, je me dis, mais attends, voilà, il faut absolument que je le fasse. Je commence. Cette copine Julie qui était chez Chanel. Et Yoko, à l'époque aussi, une autre fille qui était chez Chanel, et je les ai harcelées, je me rappelle, pendant une semaine, en disant, mais il faut absolument qu'il ait sa veste, s'il est prêt à payer, vous pouvez demander à Karl et compagnie. Et elles étaient un peu jambon, elles peuvent arrêter de nous saouler, elles. Je pense qu'elles avaient... À l'époque, personne ne comprenait l'ampleur de lui, ce qu'il allait devenir, parce qu'en fait, à l'époque, c'était pas le Kanye d'aujourd'hui, on était avant tout le buzz que les réseaux sociaux apportaient en plus. Aux États-Unis, c'était
énorme déjà.
Énorme, mais chez nous, c'était encore un peu. Voilà. Donc un jour, je reçois un mail de Yoko, de chez Chanel, qui me dit Monsieur Lagerfeld est OK pour faire la veste et puis il n'y aura rien à payer.
Ah yes.
Waouh.
Donc,
ah ouais, c'est le mec qui est à peine fois deux.
Voilà, fois deux. Donc j'envoie le message à Virgile qui me dit que Kanye, il est...
aux anges.
Il est aux anges et donc il faut lui envoyer la veste. Et je me rappelle, on fait un WorldNet en... Enfin, je pense que ça prend un peu de temps pour la faire, finalement. On fait un WorldNet vraiment en express d'express. Et Chanel, tout d'un coup, dit, bah, en échange de cette veste, par contre, il faut qu'il vienne au prochain défilé. Et là, je dis, bon, un jour, une histoire, c'est encore un nouveau challenge. Donc, la date du défilé approche. Il se trouve que Monsieur West organise son propre défilé de sa marque, une petite marque qu'il a décidé de lancer, comme ça. Donc, il organise un défilé à Paris le même jour que le défilé Chanel. Donc, zéro stress. Voilà. Et donc, du coup, moi, toute la journée, donc Chanel envoie une voiture donc pour Virgil, Donsi, toute la bande. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent de cette photo iconique.
Bien sûr,
de
ils sont tous
la
habillés.
Bande. Voilà, ouais. Ils sont tous habillés, ils viennent tous. Je pense que c'était même leur premier défilé, en fait, d'une grande marque. En fait, tout d'un coup, Kanye ne vient pas du tout au défilé Chanel. C'est toute sa bande de potes qui viennent au défilé Chanel. Donc disons que je me suis bien fait taper sur les doigts.
Ouais, j'imagine.
Ça a créé cette photo iconique où ils sont tous dehors
avec les valises.
Avec les valises Goyard d'ailleurs, ouais, donc sympa.
Merci Chanel.
Et en fait, je pense que l'artiste à ce moment-là, il réalise pas que bon, bah Chanel c'est énorme, lui il a eu sa veste, il est très content, il peut pas venir au défilé, il occupe avec son propre défilé.
Ouais, surtout que c'était hectique, ce défilé.
Ouais.
Hein.
Il dit, bah, Karl, il a qu'à venir après son défilé. Hors de question. Et là, oh, je pense que c'est la première fois où vraiment je me retrouve confrontée à un peu le...
La folie des artistes.
La folie des artistes, particulièrement des artistes américains. Donc, c'était vraiment le début de ça pour moi, en fait. Mais bizarrement, au lieu que ça me fasse peur, finalement, je me dis... Bah, trop ça que j'ai envie de faire, en fait.
Oh putain, mais mon angoisse totale.
J'ai trop envie, genre, de connecter les gens. J'ai trop envie de rendre les choses possibles, en fait. Et à la suite de ça, j'ai que des demandes de ce type-là. J'ai Virgile qui me recontacte pour la première de Cruel Summer à Cannes, où il faisait avec Kim. Et c'est genre, ah, alors, on arrive à Cannes. Kim veut porter cette tenue pour sa montée des marches. Et en fait... il faut absolument un tailor parce que il faut tout sur mesure, ça rentre pas. Et donc il faut que je trouve tout d'un coup un tailor à Cannes qui va se déplacer et venir. Que des demandes impossibles. Mais bon, ça m'effraie pas, je le
T'as
fais.
T'as pas un niveau de stress genre
Ah si, je stresse, mais je pense que les plus grandes choses que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant, j'ai toujours stressé. Je stresse beaucoup, mais en fait.
Mais l'idée... tout en gardant les deux trucs que tu peux y arriver.
Ouais, toujours. Je me dis que le résultat, il est tellement plus important. Et attention, je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que à ce moment-là, je gagne zéro.
c'est ce que j'allais te demander, parce que comment est-ce que tu arrives... Tu sais, c'est toujours un peu délicat quand t'es cette personne un peu intermédiaire, de réussir à monétiser ta valeur, parce qu'en fin de compte, c'est des services que tu rends.
Ouais.
Comment est-ce que tu arrives à en faire un business? J'imagine que... ça prend du temps forcément.
Ah, alors
mais c'est quoi ta vision à ce moment-là, tu vois?
Bah, là, je me dis pas que ça va être un job. Je me dis que j'ai envie de faire ça, mais j'arrive pas encore à comprendre comment est-ce que je peux gagner de l'argent. Donc, soit on est dans une position où on a envie de construire une relation avec l'artiste et on se dit qu'on a une proximité. Donc, bon, peut-être que lui, moi, je suis très bien élevée. Peut-être qu'un jour, il va venir me dire, bah, tiens, je te donne tant d'argent.
Mais ça, je crois qu'il ne faut pas te raconter.
Voilà.
Ça.
Mais à l'époque, c'était un petit peu différent. Donc, du coup, moi, je fais d'autres jobs à côté. Je me dis, bon. À un moment donné, je serai payée quoi qu'il arrive. Donc au début, je suis pas payée. Au début, je suis pas payée. Je rends beaucoup de services, ça me prend beaucoup de temps.
Tu crées un réseau aussi, tu crées des relations privilégiées avec des gens qui sont inatteignables.
Et je pense que les plus gros coups que j'ai faits, on va dire donc ça a commencé à gagner, mais je me suis retrouvée quelques années plus tard à faire à faire Jay-Z et Beyoncé au Stade de France en Nike. Et en fait là donc du coup c'est un deal avec une marque, c'est complètement autre chose, même s'il y a toujours un aspect organique, c'est-à-dire qu'on est toujours loin du truc, on est toujours loin du placement de produit, c'est-à-dire que la marque, tu leur dis bah moi j'ai cette idée, parce que souvent les idées en fait vont venir de moi, j'ai cette idée, je trouve que ça serait un truc incroyable, à l'époque on est avant le deal avec de Beyoncé avec Adidas. Donc en fait il y a un côté aussi iconique, on est à Paris pendant la Coupe du Monde. Mais là, effectivement, à ce moment-là, je comprends quand même. On est plus avancé dans tout ce qui est réseaux sociaux et les gens commencent à gagner de l'argent comme ça. Mais au départ, non, je ne gagnais pas d'argent, quoi, absolument pas. Mais je pense que Kanye, ça a été la personne la plus honnête par rapport à ça. C'est-à-dire que dans le sens où, au début, en fait, Virgil était souvent l'intermédiaire et il n'était jamais question de paiement. Et en fait, un jour, je n'osais pas demander, en fait. Je pense que j'avais ce truc où j'avais peur. Et puis un jour, en fait, je vais à Los Angeles. Alors, dans un délire complètement, enfin, c'est comme dans un rêve réellement, je croise Kanye, en fait, à Los Angeles. Mais des années après ça.
Okay.
Et en fait, il me dit « Ah, mais tu vas venir au bureau cet après-midi. » Et donc, il me donne comme ça, voilà, l'adresse du bureau. Il me dit « Ouais, tu viens au bureau, il y a un projet sur lequel je veux que tu travailles. » Et donc, je me dis « Bon, enfin, moi, je rentre à Paris demain, en fait, Kanye. » Il me dit « Non, 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 you're not going back to Paris. » Je dis « Ok, je vais au bureau, je l'attends pendant 2 heures. » Et en fait, quand il arrive, j'attends littéralement 2 heures.
Quoi, c'est rien. En Kanye West Hours, c'est l'équivalent de 3 minutes.
Sachant que, en fait, moi, je ne conduis pas. Donc, je vais au bureau qui était à l'époque à Calabasas. Je ne conduis pas, donc j'avais gardé mon Uber parce que je me dis, ça se trouve, le mec, il ne va jamais venir. J'arrive au bureau, j'ai rendez-vous avec Kanye. Il dit, bon, là, il y a 5 personnes qui ont rendez-vous avec lui qui sont là depuis ce matin. Donc, soit t'attends, soit voilà. Et je dis, mais en fait, moi, je suis censée partir à Paris demain. Il m'a dit de venir. Donc, pas d'assistant, aucun intermédiaire. Je suis un peu, genre, totalement dans le flou. Et en fait, j'attends sur le parking du truc. Il débarque. Et je dis, ouais, ça fait 2 heures que je t'attends, je m'en vais.
Ah, yes,
et
yes.
En fait, il dit non, 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 I'm so sorry, blablabla. Et en fait, on arrive, on discute et il me dit déjà, mettons les choses au clair. Toi, tu as travaillé pour moi sur tac, 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 tac de projet. Lui, il travaille à la comptabilité. Tu vas lui envoyer ton invoice. Dis-moi combien tu veux. Voilà. Et en fait, quelques jours plus tard, je reçois sur mon petit compte en banque un virement de Kanye Omari West, de son vrai compte en banque personnelle. C'est-à-dire, c'était même pas l'entité Yeezy, c'était même pas, voilà. Et en fait, j'avais donné un chiffre comme ça, en fait, en me disant qu'il allait jamais me payer. Et en fait, si. Et je pense que c'est quelqu'un de très droit, c'est quelqu'un qui a... Je sais qu'aujourd'hui, c'est toujours très délicat, en fait, de parler de cette personne, mais moi, c'est quelqu'un qui a changé ma vie, en fait, réellement. J'ai énormément de respect pour lui. Il a dit et fait des choses qui sont un peu...
Problématiques.
Et voilà, qu'on n'approuve pas forcément, mais... Je pense que c'est grâce à lui aujourd'hui, le métier que je fais en tout cas, même si j'arrive toujours pas à le définir, c'est en grande partie grâce à lui, donc moi j'aurais toujours beaucoup de respect pour lui. Donc voilà, donc finalement...
Donc il te fait venir au bureau pour faire quoi au final ?
Il me fait venir au bureau pour travailler sur... C'est un projet de recherche, c'est un projet de recherche que je réalise, j'imagine bien, sur lequel je suis payée. Donc ça peut être autant des recherches en vêtements, vintage... que des recherches d'images, donc ça part toujours sur une idée. Lui, il va te confier une mission, il va penser que tu sais coudre, donc en fait il se dit que tout le monde sait faire, donc il va dire bon bah en fait je veux ce vêtement, mais j'y mets moi en fait je sais pas coudre. Mais même le fait de te demander, tu sais, de il a cette capacité en fait à croire en fait que tout le monde a un talent caché finalement. Donc si toi, en fait, t'arrives à bien t'exprimer, t'arrives à bien t'habiller, t'arrives à bien communiquer, finalement, tu peux tout faire. Et je pense que c'est ça son génie, finalement.
Ouais, parce que c'est un truc qu'il applique à lui-même.
Voilà, qu'il applique à lui-même. Donc finalement, tu peux, disons que tu sais pas produire de musique, mais il va te demander ton avis sur un son et en fait, il espère que tu répondras, finalement, et que tu sauras répondre. Parce que si t'as une culture, tu dois avoir une culture musicale, tu dois avoir une culture... Tu dois t'y connaître en architecture, tu dois t'y connaître en... Tu vois, c'est pas... En fait, la mode, et moi, j'ai un peu cette manière-là de penser, c'est que la mode, finalement, c'est minime, c'est infime par rapport à tout ce que l'être humain peut faire de manière générale, créativement.
Mais c'est là où il a été trop fort, parce que en fait, il était, si tu prends le truc, c'est qu'il était beatmaker. On lui a dit, tu seras jamais rappeur. Les gens se foutaient de sa gueule, tu vois, littéralement. Il s'est dit, c'est devenu un rappeur. C'est devenu un rappeur, genre... confirmé, une star. Il a voulu faire de la mode, on lui a dit « Non, tu feras pas de la mode ». Il a fait de la mode. En fait, lui-même, il a ce truc de dire « Bon, bah, tout est possible
». Exactement.
Alors que les 95% aujourd'hui, je pense que ces dernières années, bah, c'est aussi parce que lui, il a montré le chemin, que les artistes se sentent plus libres d'essayer d'autres choses. Mais il faut voir de là d'où il vient. Rockefeller, voilà. C'était, C'était codifié le truc, tu vois. Donc, ouais.
Donc je pense que du coup, dans mon parcours, cette rencontre, elle a défini beaucoup de choses. Je me suis dit que j'avais envie de faire ça. Donc du coup, je me suis retrouvée par souvent par le bouche à oreille, des gens qui parlaient de moi et ils disaient, bon, cette fille, elle peut apparemment tout faire. Je sais pas exactement ce que c'est tout faire, mais...
Putain, j'ai pas encore testé, il faut que je te teste. Non. Je sais pas si j'ai les moyens, mais...
Écoute, je pense que dans cet esprit, en fait, de pouvoir manifester les choses et se dire que rien n'est impossible, j'avais, en fait, fait travailler avec Balenciaga sur un projet de campagne d'artiste. Et en fait, il m'avait demandé de proposer des noms et je propose Justin Bieber, qui accepte de faire la campagne Balenciaga et qui, à ce moment-là, en fait, décide de venir à Paris. Donc, le shooting de la campagne avait lieu à Paris. Et moi, je m'étais toujours dit, oh bon, peut-être un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, en tout cas, on avait un président qui était jeune. Je m'étais dit, ça serait vraiment bien niveau image, un peu comme aux États-Unis, époque Barack Obama.
Attends. Est-ce qu'on dit les choses? Est-ce qu'on dit les termes? Parce qu'avant Justin, il y a un truc.
Ah
il
bon
y a Kanye qui veut rencontrer le président.
Oh là là! Ah oui, j'ai oublié cette histoire! Oui. On dit le terme, oui.
Alors,
avant Justin.
Mais parce que, attends, on va mettre le contexte. Lina, ouais, c'est le genre de personne qui t'envoie un texto, qui te dit « Qu'est-ce que tu fais là dans une heure ?»« Ouais, rien, je suis chez moi. »« Ok, est-ce que tu veux venir avec moi au Sunday service ?» Et oui, bien sûr. Et elle me pose à un mètre de Kanye. Je te remercie encore parce que c'était une expérience incroyable. Il y avait un mec qui a crié, qui a pleuré littéralement pendant une heure derrière nous. Tu te rappelles pas le mec qui pleurait?
J'ai pas vu. Je
toi,
rappelle
tu chantais,
plus.
C'est pour ça.
Je chantais, oui. Parce que du coup, je connais toutes les. Le Sunday Service, c'est vraiment un. C'est aussi quelque chose qui a changé ma vie finalement, tu vois, qui m'a rapprochée de ma spiritualité via lui d'ailleurs, parce que je me suis retrouvée un peu transpercée là-dedans. J'ai eu la chance d'assister à, je pense, plus de. Peut-être qu'on en est arrivé à 6 services. Donc, où le dimanche, en fait, on se réunissait à Los Angeles avec des musiciens et qui allaient chanter donc, ce que les Américains appellent des praises, donc des chants un peu de gloire et compagnie. Mais on n'a pas forcément besoin de...
D'être chrétien.
Voilà, d'être croyant, tout simplement. En fait, il faut juste... Je pense que la spiritualité, elle va au-delà de croire en tel ou tel Dieu, finalement. On est vraiment, c'est vraiment un moment musical où on est transporté complètement.
C'est transcendant.
Voilà, on sort de soi et voilà, à un moment donné, quand il a lancé ça, les gens disaient « Oh, c'est une secte, ils sont tous habillés pareil » et voilà. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai emmené des gens qui étaient de confession juive ou des gens qui étaient musulmans qui arrivaient à
apprécier l'expérience.
Voilà, et à être complètement transporté. C'est-à-dire que c'est pas un concert, en fait. C'est un moment musical, mais
un truc qui te prend au cœur. Moi, voilà. Je suis musulman, tu vois, j'ai pas été dans ce truc chrétien, et ça m'a tellement touché. Genre, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable.
Donc, du coup...
Ok, donc ça, attends, on continue le contexte. Donc, il y a ce premier texto, et puis quelques semaines après, t'envoies un texto, elle te dit... Il y a Kanye qui aimerait bien rencontrer le président. Est-ce qu'on peut faire... Can we make it happen?
Voilà.
Et ça a failli se faire.
Je sais plus ce qui s'est passé.
Bah, c'est le jour du Covid.
Ah ouais, le Covid. Ah c'est oui, c'était le jour du Covid. Alors attends, il y avait quoi ce jour-là? C'était son défilé.
Ouais.
Bah oui, vu que le lendemain, il est parti de Paris.
Il est parti le lendemain.
Voilà, donc il y avait son défilé à Paris. Donc le... Alors est-ce que c'était dans l'avant-dernier défilé Yeezy au siège du parti communiste. Donc bon, ça c'était tout s'était très bien passé. En fait, je crois que je t'avais envoyé un message la veille ou l'avant veille.
Parce qu'en fait l'histoire, ok, c'est que il voulait une Légion d'honneur. Est-ce qu'on peut dire
ça ou pas? Ouais. Oh, je sais pas. J'ai pas envie de finir sur The Shade Room.
Non. Ok, on éditera. Mais l'histoire c'est ça. Et en fait, on lui dit non une première fois et il envoie une capture d'écran de Pharrell qui lui est truc. Il dit mais si Pharrell
qui est décoré,
pourquoi moi je peux
pourquoi
pas être décoré
moi.
On en revient au truc de ouf.
C'est vrai. Et donc du coup moi je me dis oh, bah, c'est vrai en fait il mérite. Faudrait la lui donner. Et donc du coup je te harcèle pour qu'on essaye d'obtenir un rendez-vous via un de tes amis.
Ouais.
Avec le président. Et en fait, on allait presque y arriver, voilà. Sauf que...
Bah, le Covid.
En fait, c'est l'annonce de...
Du Covid, ouais.
Du Covid, donc lui, il quitte Paris en... Voilà, on savait même pas combien de temps ça allait durer. On y a cru pendant un moment, en réalité. Oui. On se dit, oh, tiens, ils vont peut-être fermer les frontières. Après, on apprend qu'on va fermer les frontières,
c'est
que machin.
C'était chaud.
Donc, c'était le bordel. Puis après, il a eu quelques petits déboires publics et c'était plus possible, quoi.
Mais bon, allez, fast forward to Justin Bieber.
Donc du coup, voilà, on arrive à Justin qui arrive à Paris pour shooter la campagne donc Balenciaga. Et en fait, moi, je me dis, bah, attends, on n'a pas réussi à faire Kanye, donc ça serait trop bien que Justin rencontre le président. Et en plus, il arrivait, pendant son séjour, en fait, il y avait la fête de la musique. Donc je me dis, bah tiens, c'est vraiment l'occasion et compagnie. Bon, à l'époque, le président avait bonne presse, on va dire, comparé à maintenant.
Ouais, premièrement, c'était premier mandat, ça. Ouais.
Voilà, donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on insiste. Je sais même plus... C'est un truc qui s'est joué vraiment en 24 heures, en réalité. Et moi, voilà, en toute transparence, en fait, j'en parle à l'équipe de Justin, qui me dit oui, il a grave envie de le faire. Et tout d'un coup, il me demande une confirmation. Mais sauf que moi, c'est les élections, les législatives. Ouais. Je n'ai personne au téléphone. Personne ne me répond. Personne ne m'a dit oui, d'ailleurs. Mais Justin, lui, il a mis son costume sur son lit. Il dit qu'il va rencontrer Macron. Donc moi, je suis... Genre, ce jour-là, je vais... La veille, il finit de shooter sa campagne. Et moi, la veille, en fait, je me dis, oh, tiens, ça va pas se faire. J'avais envoyé email, message, je sais plus, tel ministre, tel conseiller, tel machin. En fait, personne ne m'avait répondu. Mais je me dis, je vais attendre avant de leur dire non. Toujours en me disant, voilà, à 20h le soir, pas de réponse. 21h, pas de réponse. Et en fait, là, je me rappelle, j'ai ma mère et ma meilleure amie au téléphone qui me disent, oh, mais lâche l'affaire. Toi, t'es toujours dans des galères.
Jusqu'à la dernière minute.
Et en fait, je pleure, mais de nerfs. Ouais. Je vais m'allonger comme ça. Et là, mon téléphone sonne. Et en fait, donc c'est une voix féminine. Oui, Madame Amanda, c'est juste pour vous confirmer qu'on a bien reçu votre demande pour Monsieur Bieber demain. Veuillez nous envoyer les plaques d'immatriculation des véhicules. Mmh. Par contre, alors, l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais obtenu, par mes talents de
négociatrice.
De négociatrice. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, peut-être qu'on devrait couper, mais j'avais obtenu le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron.
Wow.
Et je l'avais harcelé sur WhatsApp. Quelqu'un m'avait dit, attends, c'est son numéro. Et en fait, il répond sur WhatsApp. À partir de je ne sais pas quelle heure. Mm-mm. Et en fait, j'arrêtais pas d'envoyer des messages. Monsieur le Président... On m'a dit que vous... Parce que quelqu'un aussi m'avait dit qu'il était OK pour le faire. Mmh. Donc du coup, je m'accrochais à ça, mais je n'avais jamais eu de confirmation ni de l'Élysée, ni de lui. Et je dis, mais Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me répondre et
tout ça. Ah ouais, sans gêne.
Et là, oh, la secrétaire de l'Élysée me dit, par contre, est-ce que vous pouvez arrêter de le harceler, Monsieur le Président. Et en fait, moi, je suis persuadée que c'est ma meilleure amie au téléphone. Je lui dis, oh, t'es lourde. Arrête. Tu vois pas que je suis déjà stressée. Elle me dit... Je me dis, Madame Amanda, regardez votre boîte email, on vous envoie la confirmation par email. Et j'avais la confirmation, et je dis, non, je suis désolée, je suis genre en pleurs. Et je dis, oh, je suis désolée, j'ai eu une journée difficile, comme personne ne me répondait. Elle dit, mais en fait, on est occupé aujourd'hui. C'était un peu les élections, quoi. Et donc, du coup, on arrive le lendemain à l'Élysée avec Justin et sa femme. On rencontre le président qui était genre super cool, qui nous a trop bien reçus avec son épouse. Et on passe un moment très agréable dans son... bureau, ensuite Brigitte Macron qui nous fait visiter l'Élysée, qui nous présente son chien. Voilà, c'était vraiment un moment vraiment à la cool. Voilà, un grand moment. Après, politique, je suis pas très politique.
Oui, qu'on aime la politique ou pas, partir d'où tu pars et arriver là-bas, c'est toujours.
En termes de symbole, je pense que même symbole. Pour lui, en fait, il comprenait que. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Peut-être que les Français, on a été beaucoup critiqués, en fait, par rapport à ça. Parce que les gens disaient, on mélange, la France a des vrais problèmes. Je suis d'accord, oui, la France a des vrais problèmes, mais le jour de la fête de la musique, de recevoir un artiste international, c'est pas non plus négatif, quoi. Donc du coup...
Même pour le rayonnement de la France à l'international, je veux dire. Ouais.
Mais bon, c'était pré-gilets jaunes, c'était vraiment le début, et les gens étaient très énervés en réalité. Donc, mais pour les jeunes, moi je trouvais que c'était quelque chose de plutôt positif, parce qu'en fait, Justin, il est jeune, il est cool, il est arrivé en basket, le costume et les baskets, mais il a fait l'effort de mettre un costume, et ils m'ont demandé est-ce que ça allait devenir en basket. Bon, il est jeune, il n'est pas obligé de mettre des mocassins, quoi. Donc voilà. Mais quand même, il a eu ce truc de respect de se dire voilà,
c'est un président.
Voilà, et puis un costume d'une marque française. J'ai trouvé que c'était il était chic et il était très gentil Et voilà. Donc ça, c'était un des, je pense, en termes de carrière, encore un moment où on gagne zéro, mais qui fait non, du bien, bon, même pas à l'ego, parce qu'en fait, je pense... Moi, je suis quelqu'un qui est quand même très privé. Je pense que c'est la première fois que je raconte un petit peu mon parcours et mon histoire.
Oui, sûr et certain.
Et j'ai jamais été, en fait... l'argent, finalement, c'est un moyen de faire les choses, mais ça n'a jamais été une fin. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, j'ai l'habitude... On me demande des services. En fait. Je fais ce métier et je suis dans ce milieu depuis que j'ai 18 ans. Et en fait... les gens m'ont toujours demandé des services. J'ai toujours mis les gens en relation. Avant que ce soit des célébrités, c'était des copains qui allaient me dire « Alors, mets-moi en relation avec telle maison de disques. J'aimerais faire tel truc. Je rêve de faire du rap. » Que ce genre de choses, en fait. Et même des copains qui... on aurait pu se dire « Bon, attends, tu réussiras jamais dans le rap. » Moi, je leur donnais toujours, en fait, cette opportunité de se dire « Écoute, moi, je te mets en relation. » Et après, c'est à toi de... C'est ta chance, en fait, finalement. Voilà, moi, je suis pas Dieu. Donc, ce qui se passera après, ce sera à toi. Mais c'est des choses pour lesquelles, voilà, j'étais jamais payée en réalité. Donc, l'argent, c'était... Moi, à un moment donné, on se réveille, on se dit, bon, enfin, il faut un petit peu commencer à gagner sa vie. Donc, j'ai un peu transformé mon métier. Je me suis mise à faire beaucoup de placements de produits, en fait. Parce qu'à un moment donné, d'avoir des célébrités qui portent son produit, ça se monétise aujourd'hui. Mais ça m'a pris du temps avant d'en arriver là. Finalement, aujourd'hui, c'est un business énorme, et je pense que je suis même à 10% de ce que je pourrais faire finalement, mais j'espère pouvoir aller plus loin. Mais
comment t'as le déclic de dire ok, telle marque ou tel truc, est-ce que c'est toi qui te dis ok, je vais aller vers là, ou c'est une première marque qui te contacte et qui dit bon, on a envie d'être sur telle célébrité, on sait que t'es en contact, comment se passe le switch?
Moi, le truc, c'est que j'ai un positionnement où je ne suis ni agent, ni... en fait, je suis vraiment un électron libre. Je suis mon propre patron depuis toujours. Donc, j'ai des clients à l'année. Et puis, j'ai d'autres personnes qui vont me contacter, qui ont entendu dire que je pouvais mettre en relation. Et puis, je suis un peu... J'aime pas bypasser les agents, parce que je trouve que c'est un métier qui est très important et qui est très respecté à Hollywood. Mais j'ai réussi à obtenir justement le respect des agents à Hollywood. C'est-à-dire que... Je vais les faciliter, mais sans prendre leur job, en fait. Je vais les mettre dans la boucle, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on peut être l'agent d'une superstar et ne pas forcément recevoir les offres de cette superstar-là, où parfois les marques vont se dire on veut avoir accès à telle personne, mais d'une, ça coûte trop cher, ou de deux, c'est peut-être difficile d'y avoir accès, la personne a peut-être changé de management entre-temps. Donc, j'ai plusieurs vraiment cas de figure, en fait. Donc, parfois, c'est des... Mais c'est souvent, voilà, les gens qui me contactent. Moi, je pense pas que... Finalement, je fais jamais moi-même la démarche d'aller vers les gens.
Mais... Non, je parlais de la première fois. Pardon,
la première fois, quand je fais ça?
Ouais, où tu te dis où la première OP où t'as été payé pour faire un placement de produit. Est-ce que ça vient de toi ou c'est une marque?
En fait, j'ai une amie qui m'a présenté à une marque et elle avait compris qu'en fait, j'avais... possibilité de gagner de l'argent comme ça. Et en fait, finalement, elle m'a dit, tu devrais contacter cette marque et leur proposer de mettre leur produit sur une personne. Donc malheureusement, je pense pas que je puisse citer le nom de cette personne-là.
Non, c'est pas grave. Non, on s'en fout.
Mais c'est une artiste, il n'y en a pas deux. comme elle. Et en fait, finalement, voilà comment je me retrouve à faire ça.
Ok.
Mais je pense que l'anecdote, elle est peut-être importante. En réalité... Mais la première fois, en fait, c'est... Donc, une marque me contacte, une marque de joaillerie, et en sachant qu'en fait, je suis capable de faire les choses, mais elle me met un petit peu au défi. Donc, je gagne pas d'argent à ce moment-là. Elle me dit, est-ce que tu... Beyoncé est à Paris, est-ce que tu penses que tu pourrais mettre un de nos produits sur elle? Et en fait, je dis, bah ouais. Trop. Et ils disent, attends, il y a trop de gens qui nous ont proposé de faire la même chose et compagnie. Est-ce que toi, t'es réellement capable? Je dis, en fait, ce qui serait bien, et les marques faisaient pas ça à l'époque, ce serait de lui offrir. Donc, on commence en fait par une toute petite bague. Et en fait, je lui offre. Et le jour même, elle est photographiée devant la Joconde, au Louvre. Une photo comme ça, genre, avec la bague. Voilà. Incroyable. Et donc ça, c'était le test. Finalement, après, on continue à travailler ensemble. Mais je pense que jusqu'à ce moment-là, je me dis pas... J'arrive pas à comprendre comment, en fait, m'organiser pour que ça puisse être... pour pouvoir gagner ma vie comme ça, en fait.
Ouais.
Et puis maintenant, il y a tout ce système de red carpet où les célébrités vous portent sur le red carpet. Souvent, c'est organique. Parce qu'en fait, les clients, ils n'ont pas forcément... Enfin, les personnes... Quand les personnes montent les marches à Cannes ou je ne sais pas quoi, bon, il y a des gros deals avec des géants de la joaillerie, mais il y a aussi des choses qui se font organiquement. Donc, moi, j'ai réussi à rentrer un peu dans cette brèche-là, finalement, en fait, où les gens ont besoin de bijoux, où les gens ont besoin d'une robe, où les gens ont besoin de... Voilà. Mais sans être RP, ni être agent...
ni être styliste.
Ni être styliste, voilà. En fait, ça va plus partir d'une idée, en fait. Un événement va... Il va y avoir un événement, je vais penser à quelqu'un, ou quelqu'un va penser à moi. Comme là, par exemple, je pars aux États-Unis pour les Golden Globes. Je reçois des messages de gens incroyables que j'aurais jamais pu penser atteindre et qui vont me dire « Ah bah tiens, on a entendu parler de toi » ou des gens qui vont me dire « On s'est rencontrés il y a 10 ans, je sais pas si tu t'en rappelles, j'étais intern pour je sais pas qui, maintenant je suis styliste d'un tel. » Et voilà, donc c'est souvent des moments un peu comme ça où tout se fait beaucoup à la dernière minute. L'année qui vient de s'écouler, j'ai eu la chance de pouvoir placer des bijoux sur Rihanna pour le Super Bowl. Et c'était un stress incroyable, même moi j'y croyais pas, parce que jusqu'à la dernière minute en fait, je n'étais pas sûre que ça allait marcher en fait, en réalité. Donc on est face à une superstar, le plus gros événement sportif américain de l'année, et peut-être mondial, pas qu'américain. Et en fait moi je suis qu'une petite personne, c'est-à-dire que moi je travaille toute seule, j'ai commencé à travailler récemment avec un assistant, mais sinon en fait je suis toute seule. Donc, parfois, je me retrouve face à des gens où je me dis, mais comment j'ai fait, moi qui suis née genre à Yaoundé, au Cameroun, comment je me retrouve là? Et en fait, pour le Super Bowl, c'était pareil. On avait fait une sélection de bijoux. J'étais pas du tout sûre que ça allait fonctionner. Et donc, je suis à Los Angeles. Tous mes copains me disent, bah, tu devrais trop aller au Super Bowl et compagnie. Comme ça, t'es sûre, si ton truc il se fait, t'es sur place et compagnie. Et moi, je dis, oh non! Ça me saoule de reprendre l'avion pour y aller. En plus, ça ne marchera pas. Pour la première fois de ma vie, je pense... D'habitude, je suis très positive. Et là, je me dis, oh, ça ne se fera pas. C'est impossible, en fait. Le Super Bowl, c'est genre intouchable. Et en fait, donc j'ai des copains qui viennent de Paris, Eddie, et que j'avais rencontré chez Azedine Alaïa à l'époque, et Anthony de la marque Blue Marble, qui sont à Los Angeles à ce moment-là et qui ils me disent bah, « Tiens, tu vas pas rester à ton hôtel, on va au Soho House, on va regarder la performance de Rihanna. » Et je tremblais littéralement, j'étais vraiment genre stressée. Et à ce moment-là, en fait, la marque est française, Paris dort, donc il n'y a personne qui peut même me soutenir émotionnellement, c'est-à-dire que même les gens de la marque, en fait, ils dorment. Voilà, on est en pleine nuit, à qui je vais parler. Ma mère, elle dort, mes copines, elles dorment. Donc en fait, on est là, on regarde et compagnie, elle arrive à l'écran, et là, un zoom incroyable sur ses oreilles, elle porte les boucles d'oreilles de la marque. Et là, on hurle, parce qu'eux, ils avaient compris le stress que je vivais. Et on hurle tous ensemble et on saute et on machin. Et c'était juste incroyable. Et en plus, elle révèle qu'elle est enceinte. C'était vraiment le moment d'une vie. Vraiment. Une émotion. Enfin, moi, j'en ai pleuré, en fait. Je me suis dit, mais d'arriver, en fait, quand je regarde un peu mon parcours et je me dis, il y a eu beaucoup de galères, en réalité, en fait. Rien n'a jamais été facile, finalement. Souvent, j'allais proposer des idées à des gens avant d'en arriver au point où les gens me sollicitaient. Et les gens allaient dire « Oh, bon, on n'a pas de budget, on n'a pas, ou cette idée, elle est un petit peu nulle. » Ou alors, parfois, j'allais subir des choses, j'en reviens un peu, même si je ne veux pas que mon discours soit forcément lié au fait que je sois une femme noire. Finalement, je suis une femme noire, donc c'est important de le dire. Où je me retrouvais, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à Beyoncé et Jay-Z qui portent le maillot de l'équipe de France.
Iconique.
Un maillot qui était sous-scellé, que personne n'avait à part les gens de l'équipe de France, où vraiment c'est un truc où on le révèle qu'à la dernière minute, que si l'équipe gagne. Et en fait, ce soir-là, j'ai un chef français, je vais citer son nom et j'espère que vous n'allez pas le couper.
On coupera
vraiment,
pas, t'inquiète,
genre, shots fired. un chef français qui s'approprie mon travail et qui fait un post sur Instagram en disant « Quand Beyoncé et Jay-Z portent un maillot que tu leur as offert ».
Je pense que tu n'as pas besoin de citer la personne.
Bon, je vais le dire, c'est
Bah oui.
Voilà. Donc moi, à ce moment-là, en fait, je suis dans mon petit appartement. J'ai bossé comme une malade là-dessus. Les équipes de Nike France, ils m'ont fait confiance. Et en fait, on se retrouve sur Instagram avec quelqu'un qui a pignon sur rue, qui a... Voilà, qui bien dit... Sûr. En plus, un mensonge, voilà. Un mensonge. C'est-à-dire que d'une... Il peut essayer de m'attaquer pour diffamation, mais j'ai des preuves.
il n'a
jamais pu leur offrir de maillot d'équipe de France parce qu'en fait, ce maillot n'avait été produit qu'à un nombre limité, avec le nombre d'étoiles en cas de victoire. Donc, il ne l'a jamais eu entre les mains. C'est genre impossible et ça, c'est vérifiable. En plus de ça, il se dit que tiens, je vais aller faire un post pour... Parce qu'en fait, j'ai une communauté et moi, tu comprends.
Oui, mais toi, c'est aussi ton truc où toi, t'es low-key, que ton Instagram, il est privé. Enfin, il sait qu'en s'attaquant à toi, les gens, ils vont pas pouvoir faire le lien.
En fait, je pense qu'il connaît même pas mon existence. Il se dit juste qu'en fait, la personne qui a fait ça n'aura jamais une voix aussi puissante que la sienne. Sauf qu'il se trompe à ce moment-là. Parce que je me suis pas laissé faire, en fait. J'ai eu, tu sais quoi, à ce moment-là, en fait, je fais un post sur Instagram. J'en parle à des copains. Et en fait, le peu de copains que j'ai, qui sont 2000 personnes qui me suivent, tout le monde allait lui laisser des commentaires.
Ah oui, mais ça,
en disant, mais si vous êtes un menteur, c'est pas du tout vous qui avez donné le maillot. Et là, je reçois un appel, en fait, de son assistante. Je sais pas comment elle a obtenu mon numéro. Et qui me dit, oui, vous pouvez dire à votre armée d'arrêter de mettre des messages au chef. C'est une erreur, c'est un quiproquo, c'est un malentendu. Je dis non, en fait, c'est un mensonge. voilà, qui sont deux choses différentes. Mais ça montre un peu, en fait, un exemple. On a beau, en fait, réaliser des choses incroyables, il y aura toujours un connard de service qui va vouloir s'approprier votre travail.
Ah ouais, c'est la base.
Voilà, et il a des millions de followers, on pourrait dire qu'il n'a pas besoin de ça, mais en fait, ce jour-là, il s'est dit, bah tiens, bah, je vais en avoir encore un peu plus. Et je pense que dans son entourage, comme moi, c'est vraiment... Je suis inexistante par rapport à lui. Je pense que dans son entourage, malgré le fait qu'il a enlevé le message, il a continué à dire à ses potes que c'était grâce à lui. Très certainement. Et voilà, et des histoires comme ça, en fait, il y en a des...
Bah, bien sûr.
Des anecdotes comme ça.
Moi, je sais, j'ai déjà vu passer des trucs, je savais que c'était toi et je voyais d'autres personnes qui...
Ah oui. Des trucs avec le PSG... Je pense que ça que tu
fais. Je suis pas au courant.
Voilà. Mais oui, mais en fait, déjà, quand on est une femme, je pense que c'est compliqué. Parce qu'en fait, on est dans un milieu où, bon, les mecs, ils dirigent et on a beau taper le poing sur la table. Moi, je sais que, en fait, un des trucs qui me dérange le plus, c'est de ne pas me sentir protégée, en fait. Je pense que j'ai pas ce... Quand j'arrive aux États-Unis, en fait, je suis... Même si je trouve que... Je suis pas du tout pour ces gens qui disent « Oh, ouais, c'est le pays de... » voilà, de... où tout est possible, et c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux les États-Unis du tout, mais en tout cas, quand j'arrive là-bas, je suis respectée. Je peux aller chez CIA, chez WME.
Qui sont des grosses agences de célébrités.
Toutes les grosses agences, ils savent que j'existe, jamais ils vont me mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, on va travailler main dans la main. Et en fait, oui, ils vont respecter mon travail. En France, je pense qu'on est toujours dans un truc où si on peut te squeezer ou si on peut te sous-payer, ou... enfin moi littéralement je pouvais être sur des jobs où j'avais des marchés et concrètement la fille, la parisienne était payée le double de moi et moi je l'apprenais plus tard en fait que j'avais un budget, on pouvait faire le même job que j'allais très certainement mieux faire et que moi en fait j'étais moins payée que la fille et sur quels critères en fait on ne dit jamais mais finalement en fait c'est forcément lié à quelque chose qu'ils considèrent comme un désavantage. Donc je pense que c'est ce qui est difficile un petit peu en France, même si je pense que si les gens qui écoutent, j'ai envie quand même de leur dire que réellement, mon motto reste que rien n'est impossible. En réalité, on peut se lever, on peut grandir en banlieue, on peut faire des études ou ne pas faire des études finalement, mais juste croire en ses rêves en fait finalement. Moi, j'avais un rêve, c'était de pouvoir rendre les choses possibles, mais à des niveaux différents. Ça pouvait être rendre une amie heureuse parce qu'en fait, elle avait sa petite marque et qu'en fait, elle rêvait que, j'en sais rien, Rihanna porte un de ses bijoux. Ou alors un copain qui avait, je me rappelle, à une époque, j'étais copine avec un mec qui avait une toute petite marque et il me dit, bah, tu sais quoi, en fait, moi, je suis hyper fan de Jay-Z et en fait, mon rêve, c'est vraiment que Jay-Z porte un de mes t-shirts. Et en fait, je lui ai dit, bah, passe-moi un de tes t-shirts, Jay-Z va le porter. Il me dit, oh, mais arrête, voilà. Je veux pas croire en ces trucs-là. Et en fait, voilà, Nico, si tu m'écoutes, voilà. Et en fait, Jay-Z a porté son t-shirt, voilà, sur un bateau en France, en vacances. Et ce mec-là, j'imagine que ça lui a changé sa vie. Et moi, j'ai gagné zéro. Ou je crois qu'il m'a, il a dû m'offrir une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est suffisant pour moi, finalement, en fait, tout n'est pas question d'argent. Si quelqu'un vient me voir, en fait, dans la mesure du possible, sans m'utiliser, sans utiliser mes connexions que j'ai mis du temps à bâtir, je peux aider en réalité la personne. Je pense que j'ai rendu beaucoup de faveurs. Et peut-être que Dieu me le rendra un jour. Et Dieu me l'a déjà rendu, parce que je pense que le fait de pouvoir vivre de ce que j'aime et d'être libre, je pense que ma force, c'est vraiment ma liberté, c'est de pouvoir aller... J'ai la chance de ne pas me lever le matin et d'aller au bureau, de ne pas être enfermée, de pouvoir rêver si j'ai envie de rêver, parce qu'en fait, c'est rêver qui me donne les opportunités que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai des clients qui... Je vais leur faire... Alors, au départ, on avait un fonctionnement où on faisait des présentations, des PDF, des trucs. Alors, ah, tiens, je peux t'avoir telle ou telle personne. Ce serait bien que telle ou telle personne porte ta marque, d'avoir des chiffres, de dire, tiens, prends cette personne pour une campagne. Mais... En fait, c'est même pas ma manière de travailler, en fait. Je peux pas, j'ai pas envie de faire des reports, j'ai pas envie de prédire, en fait, des chiffres, parce que maintenant, en fait, on a beaucoup de structures qui font ça, qui vont prédire que telle personne... Alors, j'ai vu passer une liste il y a quelques jours où on disait, bah, pour l'année à venir, en fait, alors Kim Kardashian sera numéro 1, ouais, Kylie sera numéro 6, voilà. Et en fait, finalement, je sais même pas si ça, c'est vrai. Tout dépend du produit, du moment, du l'influence aujourd'hui, elle se mesure pas qu'en follower Instagram, finalement. Elle se mesure aussi en l'impact, en fait, que les gens vont avoir, c'est de pouvoir ou rêver de devenir quelqu'un d'autre. Finalement, c'est ça, je pense, qui fait vendre. D'aspirer à quelque chose qui est très loin de nous, et physiquement et financièrement, d'avoir un modèle de success story. Je pense que c'est ça l'influence, finalement, aujourd'hui. C'est pas forcément des chiffres.
Puis il y a la notion de pertinence qu'il faut pas oublier, je pense aussi.
Totalement. Je sais qu'à une époque, par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire ce métier, à connecter les gens, les marques avec les célébrités, par exemple, c'était tout ce qui était Kardashian, c'était persona non grata. Il fallait pas du tout les faire et compagnie. Et puis finalement, la balance, elle s'est inversée. On les voit chez Prada, on les voit chez... À l'époque, c'était impossible.
Il y avait Olivier Rousteing qui le calculait.
Voilà, voilà. Et je pense qu'Olivier...
Les gens se foutaient de sa gueule.
Mais oui, il était tellement précurseur là-dedans, finalement, parce que déjà, d'une, en fait, son image de la femme, même si la cliente Balmain, c'était la fille, bon, skinny, riche, russe, je pense que lui, il rêvait, il a toujours rêvé, en fait, d'avoir... Bon, bah, il avait une Beyoncé qui lui fait une vidéo pour ses défilés. Les gens disent, mais en quoi il est méritant? Mais finalement, il est méritant parce qu'il a rêvé, en fait. Il a rêvé de ce moment-là. Et... Je me rappellerai toujours d'une interview de Virgile, avec Naomi d'ailleurs, qui disait, qui lui demande comment est-ce que tu as obtenu le job que tu as obtenu chez Vuitton. Et il répond, j'en ai rêvé, je l'ai rêvé. Et en fait, moi, je pense que ma vie, c'est ça finalement. C'est de rêver à des moments. Alors, ça peut être... rêver à des moments. Je pense que même le moment du Super Bowl, même si j'y croyais peu, au fond de moi, en fait, je me disais que c'était possible. Je pense que tous les gros moments, les temps forts de ma carrière, même si je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire et j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire des choses énormes, c'est des moments où je me suis dit que j'avais envie de laisser un impact, pas forcément pour moi, mais culturellement, finalement.
Donc t'es dans ce truc de manifestation,
oui,
d'une sorte.
Beaucoup,
c'est ça,
beaucoup.
De visualisation.
Ah oui, moi j'écris de manière très précise maintenant. Mais c'est récent. Je pense qu'avant, en fait, je le disais dans ma tête. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude, en fait, d'écrire les choses que j'avais envie... Enfin, d'écrire les choses importantes, en tout cas. Mais autant, voilà, sur la santé, sur... pas que, voilà, on va pas se dire qu'on... Enfin, ma vie, en tout cas, moi, je suis maman avant tout. Ma vie, elle ne tourne pas autour des célébrités et de... Ah, voilà, chez moi, je suis personne, en fait.
J'aimerais bien qu'on en parle après de ça, de ta relation avec ton fils.
Ouais. Ben moi, j'ai eu enfin, j'ai un fils qui a 15 ans,
ouais.
Que j'ai eu jeune.
Qui est toujours avec toi.
Que j'ai emmené partout.
Ah ouais?
que j'emmenais vraiment partout avec moi, parce que j'étais séparée de son père et que j'avais envie en fait de lui faire découvrir le monde en fait finalement. Et en fait, j'ai un fils qui est très spécial. C'est un personnage vraiment particulier. Je l'aime du fond du cœur, mais je pense que je l'aime pas forcément parce que c'est mon fils. Je l'aime parce que c'est un être humain spécial. Et en fait, mon fils, c'est très personnel ce que je vais dire, mais je pense que peut-être que ça peut aider quelqu'un, j'en sais rien. Mon fils, il n'a pas parlé avant 6 ans. Donc en fait, on avait un espèce de mode de communication qui était que le nôtre, où il me parlait un espèce de charabia que j'étais la seule à comprendre. Mais malgré... Enfin, pas malgré ça, mais j'ai toujours insisté, en fait, dans mes voyages, à l'emmener avec moi, à lui faire découvrir des choses. Donc lui, toutes ces personnes que j'ai citées pendant cette interview, il les a rencontrées. Il est monté sur scène avec Pharrell, à Paris. Il a toujours été très artistique, donc il avait dansé, je m'en rappelle, sur scène avec Pharrell. Et Pharrell l'avait encouragé à le faire. Et ça, c'était un moment genre incroyable à Bercy, pour un enfant qui était extrêmement timide, de monter sur scène devant des tonnes de personnes, c'était juste dingue. Voilà, ça, c'est des anecdotes que j'oublie d'ailleurs, c'est incroyable. Et mon fils, il a rencontré tout le monde, Kanye.
Qu'à ce truc laid back en plus, ton fils. Donc, ouais, en vrai, il va les rencontrer, mais l'impression qu'il s'en fout.
Il s'en fout complètement. Ah, et en fait, quand il a commencé à parler, il allait aller à l'école et il allait dire: ah, moi, alors ce week-end, j'étais avec ma mère, on a fait ça.
Ils ont dû prendre pour un fou.
Ah oui, et les profs, vraiment, Nil, ils racontent un peu des. Voilà.
Des petits bobards.
Attends, on était chez Kanye, à Calabasas, et genre, ils allaient dire, mais. Je pense même pas qu'en fait, ils mesuraient qui était ce mec, en fait, finalement. Ils s'en foutaient. Enfin, moi, mon fils, aujourd'hui, il a 15 ans. Si je lui ramène pas Travis Scott, en fait, bon, il me dit que.
Il reste à la maison.
Ouais, voilà. bof, je suis pas trop fan. Voilà. C'est vraiment genre ce truc. Mais parce que maintenant, il comprend un petit peu...
Bien sûr.
Il a une culture musicale qui ne passe pas par moi, parce qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui... voilà, il va écouter Playboi Carti. Moi, j'ai jamais écouté Playboi Carti de ma vie. Il va écouter Travis, qui va adorer, mais je pense pas que moi, je lui ai fait... Il me fait découvrir, en fait, des sons, mon fils. Et sans que je l'ai dirigé vers un type de musique en particulier... Et ça, je trouve ça, je pense que c'est le fait que je l'ai vraiment emmené avec moi partout. Genre, les gens me disaient à l'époque, mais attends, mais c'est ton sac à main, ton fils. Et je dis, mais non, c'est pas mon sac à main. J'ai envie qu'il puisse vivre, en fait, des moments incroyables avec moi et il s'en souviendra un jour. Et toute la période, en fait, où il n'a pas parlé, souvent, en fait, aujourd'hui, il me raconte des histoires de cette période-là, en fait.
Il a tout
mais
enregistré.
De manière complètement précise, c'est genre impressionnant. Il va me dire, maman, tu te rappelles ce jour-là, on était allé là. Et en fait, même moi, je ne vais pas y croire.
Ouais, il a tout enregistré.
Ouais, c'est un truc, je n'aurai jamais de regret là-dessus. Donc même aujourd'hui, en fait, j'essaye de... Il va me demander, par exemple, il va me dire, bon, ma maman, là, tu vas à Los Angeles, qui est-ce que tu vas faire? Ça va être... tu vas faire... C'est quoi comme cérémonie? Et je me rappelle, après Justin, toute sa classe lui avait demandé... Enfin, je surprends une conversation, en fait, avec des copains de l'école qui disent, oh, est-ce que tu peux demander à ta mère un autographe de Justin et compagnie? C'est genre juste incroyable qu'elle l'ait rencontré. Et en fait, je ne l'ai jamais fait pour aucun artiste, mais j'ai demandé à Justin s'il pouvait faire un truc juste pour mon fils. Je me suis dit, tiens, bon, il y en aura un, ce sera déjà bien. Et en fait, il a envoyé tout un carton de sa marque Drew avec des sweatshirts, des chaussons, des plein de choses pour tous les enfants de la classe de mon fils, en fait.
Wow.
Signé avec un mot de lui et compagnie. Et ça, j'ai trouvé que c'était juste... Il n'était pas obligé, en réalité. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, je demande jamais. Mais aujourd'hui, oui. Maintenant, il a ce truc où il va dire, ah bon, oh, tu penses quoi du nouveau son de Drake? J'ai vu que là, il prenait un peu une voix un peu particulière et compagnie, il va un peu analyser et tout. Et c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ce côté où j'ai un ado, on est extrêmement proches et on arrive à se dire les choses et on se comprend sur des sujets qui, avant, ne l'intéressaient pas forcément, en fait. Mais je pense que c'est ça, c'est grandir, en fait, dans un cadre, en fait, lui donner un cadre artistique, parce que mon fils, il peint, il dessine, maintenant, il a envie d'être architecte. Donc, de lui avoir donné en fait un cadre artistique, de lui avoir fait découvrir des très belles choses, je pense que ça a fait le jeune homme qu'il est aujourd'hui en fait. Il y a...
Bien sûr.
Donc, mais t'as ouvert toutes les cases, ouais, en tout cas les cases créatives. Quoi.
Bah, en fait, j'en ai qu'un, donc je me dis si tout ce que je fais, c'est pour lui. Donc si je peux pas tout lui donner, en fait, j'ai raté ma vie.
Ouais. Je crois que c'est un très beau mot de fin. Sauf si tu veux nous parler d'autre chose.
Non, pense que tout est dit. J'espère que...
Non, mais
tout est dit
super.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
J'aime bien la motive de dire que tu dises j'ai encore beaucoup, beaucoup... Enfin, il y a des gens, ils auraient fait un dixième de ce que tu as fait. Ils auraient dit, bon, bah, amène-les, tu vois. Et toi, tu nous dis, je suis à 10%. C'est beau, hein?
Ah non, ouais, je suis totalement à 10%. Moi, pour moi, en fait, vraiment, sky is the limit.
Déjà, tu vas relancer le magazine.
Déjà, je vais relancer le magazine, donc je pense que ça va être c'est un dit. Gros projet pour 2024. C'est dit, acté.
Je veux bosser dessus. Je veux bosser dessus.
Mais avec plaisir, voilà. Mais je veux que bosser avec toi, moi. Okay. Donc ça, ça, c'est quelque chose que vraiment, il faut que je fasse. J'ai écrit un livre aussi.
Oh. Ah, j'en étais sûr, parce que quand tu parlais d'écrire, moi, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît ou qu'on se suit. Et t'as toujours mis plein de choses textes, poétiques, ouais. De textes.
Bah, j'ai écrit un livre que j'ai tardé, en fait, que j'ai hésité à sortir. J'étais prête, tout, mais malheureusement, les aléas de la vie font que j'ai pas pu le sortir. Mm-hmm. Mais j'ai vraiment envie de le faire parce que, en fait, je pense que ma plume, elle s'exprimera même mieux que moi et que tout ce que j'ai à faire. Je pense que, en fait, moi, ce que je fais dans la journée... donc mettre les gens en relation, finalement, c'est genre mon day job. C'est comme si genre je travaillais à l'usine. Mmh. Mais après, il faut garder quelque chose pour soi, en fait. Il faut garder quelque chose qui nous appartient. Ouais. Appartenir aux gens, c'est difficile, finalement. Mmh. Même si j'adore le faire.
Oui, parce que c'est une vie au service des gens, en fin de compte.
Ouais,
sinon.
Ouais. Et moi, j'adore le faire, mais ça draine.
Mmh. Souvent, c'est des gens extrêmement exigeants, en plus.
Ouais.
Quoi.
Mais, tu sais, même pas bien que sûr. Les célébrités. C'est vrai que j'en parle souvent, ça, sur les réseaux. C'est... Les gens qui vont te dire ni bonjour ni merci, pour moi c'est tellement important de dire bonjour et merci. Ouais. Et souvent les gens se disent mais tu exagères, c'est pas parce que quelqu'un t'a pas dit bonjour ou t'a pas dit merci que c'est une mauvaise personne. Et je dis mais moi toute la journée, depuis 20 ans, j'ai des gens qui me demandent des choses. Donc en fait le bonjour et le merci c'est juste le minimum en réalité. Bien sûr. Parce que ça peut être une place de concert, un truc. Et sachant que moi je peux me retrouver dans la même situation, il faut que je demande un service. Bon. Je pense que toi, tu es la seule personne à qui j'ai osé demander un service dans ma vie. Mmh. C'est-à-dire que les gens, j'ose même pas leur demander des services. Ou alors, derrière, je vais leur faire des cadeaux, des petites attentions. Mais les gens, aujourd'hui, en fait, ils demandent. Mmh. Ils sont habitués à recevoir.
Ouais, c'est clair.
Et ça devient un automatisme.
Ouais.
Donc voilà, pensez un peu aux autres.
Un peu d'éducation.
Voilà, un peu d'éducation. Merci, au revoir, enchanté.
Ça coûte pas grand-chose.
Non, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est ça le pire. Vraiment. En tout cas, merci de m'avoir reçu.
Avec grand plaisir.
On va te dire un grand merci alors.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup, Lina.
Merci beaucoup, c'était très agréable.